Le journal avec vous, Bruno Duvic, bonsoir.
Bonsoir à tous. Quand l'Europe trouvera-t-elle une politique commune et claire dans l'accueil de migrants? Ceux qui étaient à bord de l'Open Arms vont être répartis sur le continent, mais 350 autres attendent une solution en mer, à bord d'un autre navire humanitaire. À Rome, la gauche va-t-elle revenir au pouvoir? Après la démission du gouvernement hier, le Parti démocrate propose une alliance aux 5 étoiles. Les deux se détestaient cordialement hier encore. Au nord de l'Europe, en Grande-Bretagne, le scénario du no deal pour le Brexit devient central. C'est le message envoyé ce soir par l'Élysée. L'actualité internationale est dense, mais à l'Élysée ce matin, c'était aussi la reprise, premier conseil des ministres, la reprise du gouvernement. C'est le téléphone sonne ce soir, Eric Delvaux.
Oui, avec en perspective les élections municipales, c'est dans 7 mois. Alors comment réformer en profondeur sur les retraites, sur la PMA, sans se mettre à dos une partie des Français? Eh bien, c'est toute l'équation politique, on en parle juste après ce journal.
01 45 24 7000 pour le Standard. La politique, c'est encore la rentrée de la France insoumise sans Jean-Luc Mélenchon, absent de l'université d'été du parti à partir de demain. Il est en Amérique du Sud et bientôt auprès de Lula. Mélenchon prendrait-il du recul vis-à-vis de sa formation? Élément de réponse tout à l'heure. Les Avengers sans Spider-Man, c'est beaucoup moins bien et pourtant c'est ce qui va se passer. Histoire de gros sous entre Sony et Disney, Spider-Man va disparaître de l'univers Marvel au cinéma. Les fans sont furieux et Corinne Pellissier nous explique tout à l'heure. Enfin, l'accueil triomphal réservé à Franck Ribéry à Florence. Le joueur français signe bien à la Fiorentina. Il s'exprime déjà en italien. En France, la météo demain, du soleil quasiment partout.
France Inter.
Matteo Salvini, l'homme qui ne veut pas de migrants en Italie, est sur le départ, provisoirement au moins, mais la question des migrants demeure pour l'Europe. Deux navires marquent l'actualité en cette fin août. Open Arms, au départ, ils étaient quelques 150 à bord. Certains sont restés au large 19 jours, empêchés de débarquer en Italie. La justice a finalement forcé la main au gouvernement. Ils vont être répartis en Europe. La France en accueillera une quarantaine. Mais un autre navire navigue sans savoir où accoster en ce moment en Méditerranée. Ocean Viking. Bonsoir Yann Gallic.
Bonsoir.
356 personnes à bord, sauvées au large des côtes libyennes. Aucune solution pour le moment.
L'Ocean Viking navigue actuellement entre Malte, la Sicile et l'île de Lampedusa à la recherche d'un port où il pourrait accoster. À bord du bateau, la situation est devenue préoccupante. Après 2 semaines d'errance en pleine mer, certains rescapés sont épuisés. Mais pour l'instant, il n'y a toujours aucune solution concrète de débarquement. Michael Neumann travaille pour Médecins Sans Frontières qui gère l'Ocean Viking avec l'association SOS Méditerranée.
Malte nous a opposé pour le moment une fin de non-recevoir. L'Italie n'a pas répondu. Le navire continue de naviguer en espérant que des négociations entre États européens puissent permettre de trouver une solution à cette crise. L'équipage fait ce qu'il peut pour entretenir un semblant de vie quotidienne, divertir les personnes, faire jouer les enfants. Enfin, on voit bien que plus le temps passe, plus la situation est difficile pour les personnes qui sont à bord, qui se retrouvent dans une incertitude et une angoisse très importante.
Ce soir, le gouvernement français se dit prêt à accueillir un nombre important de migrants secourus par l'Ocean Viking, sans pour autant autoriser le navire humanitaire à accoster en France, car selon l'Élysée, l'Ocean Viking doit débarquer dans le port le plus proche.
Alors peut-être que les négociations entre Européens seront plus faciles maintenant que Matteo Salvini va quitter le ministère de l'Intérieur à Rome. En Italie, justement, après la démission du gouvernement populiste extrême droite 5 étoiles hier, y aura-t-il rapidement de nouvelles législatives ou bien une coalition va-t-elle se constituer? C'est l'enjeu des discussions en ce moment. Tout sauf Salvini. Voilà l'obsession du Parti démocrate, la gauche modérée. Pour cela, les démocrates proposent une alliance à leurs ennemis d'hier, les 5 étoiles. Sacré retournement de veste. Bonsoir Isabelle Labéry.
Bonsoir.
Ils mettent tout de même des conditions.
Oui, les Italiens ont beau être habitués aux volte-face, cette fois-ci, il faudra un peu plus qu'un coup de baguette magique pour faire des ennemis d'hier les alliés d'aujourd'hui. Il y a quelques mois, Matteo Renzi parlait encore des 5 étoiles comme d'un parti dangereux et extrémiste. Alors construire un programme de gouvernement commun va se révéler tâche délicate, même si c'est vrai, les deux formations avaient déjà bien travaillé ensemble l'an dernier sur de possibles convergences avant que tout ne parte à la poubelle. L'actuel patron des démocrates exige donc des anti-systèmes 5 engagements. D'abord, être loyal face aux partenaires européens et reconnaître en interne le rôle des députés, tout ce que Salvini et ses alliés n'ont pas fait, multipliant les attaques contre Bruxelles et gouvernant à coup de décret. Le centre-gauche veut aussi des changements dans la politique économique, meilleure prise en compte de l'environnement, plus de redistribution et d'investissement. Et il y a là risque de blocage, puisque les 5 étoiles, vous le savez, sont radicalement opposées aux grands travaux d'infrastructures comme le TGV Lyon-Turin. La dernière de ces exigences est encore plus symbolique, puisqu'ils réclament, les démocrates, un changement de cap dans la gestion des flux migratoires. Les 5 étoiles sont accusées d'avoir fait beaucoup trop de concessions à la politique xénophobe du ministre Salvini. Alors les antisystèmes n'ont pas encore répondu à ces propositions, rappelant simplement dans un communiqué qu'ils sont toujours le premier parti du Parlement. En gros, pas question de leur forcer la main.
Bon, l'Italie reste dans le flou et au nord de l'Europe, le Brexit dur qui se profile en Grande-Bretagne. On en parle dans un instant. D'abord, la politique en France. Quelle personnage incarne la fin des vacances pour vous? La prof principale au collège, votre chef, votre collègue de bureau? Eh bien, pour les journalistes politiques, celle qui incarne la fin des vacances, c'est elle.
Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier conseil des ministres après la trêve estivale. J'espère que vous avez pu les uns et les autres prendre un peu de repos.
Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement pour ce conseil des ministres de reprise. Les gros dossiers, réforme des retraites et de la PMA ne sont pas encore sur la table. On est essentiellement dans la communication. Selon la porte-parole, le président de la République passe un message à ses ministres. Quelques mois après la crise des Gilets jaunes, tout est loin d'être résolu. Vigilance face à la tension sous-jacente dans le pays. L'autre information politique du jour, c'est l'absence de Jean-Luc Mélenchon aux universités d'été de la France Insoumise à partir de demain à Toulouse. Il est en Amérique du Sud, il doit voir Lula dans sa prison en septembre. Alors va pour le billet d'excuses, mais tout de même, Adrien Serrière, faut-il en conclure que Jean-Luc Mélenchon prend du recul vis-à-vis de sa formation ?
La coïncidence a de quoi instiller le doute. L'an dernier, Jean-Luc Mélenchon avait prononcé un puissant discours à cette même université d'été. Cette fois, il passe à côté, alors qu'on pouvait imaginer qu'il en profiterait pour réaffirmer son leadership. En tout cas, pour ses fidèles, il ne faut pas surinterpréter cet événement. C'est ce que dit Alexis Corbière.
Certains aimeraient que Jean-Luc soit en retrait. Je vais les décevoir. Il n'est pas en retrait. Il est toujours très déterminé. Le fait qu'il ne soit pas à nos côtés pendant quelques jours ne signifie pas qu'il ne continuera pas la bagarre. Il sera à la rentrée parlementaire. Au premier rang, comme toujours.
En attendant, d'autres figures de la France Insoumise vont prendre la lumière. Notamment Adrien Quatennens, propulsé numéro 2 du mouvement cet été par Jean-Luc Mélenchon. C'est donc bien un choix de faire un peu de place à d'autres, confirme le député insoumis Éric Coquerel.
Jean-Luc a largement participé au fait qu'il y ait des nouvelles têtes qui émergent au niveau de France Insoumise. Je crois qu'on est très certainement le mouvement politique qui met le plus de personnalités en avant, femmes, hommes, notamment beaucoup de jeunes. Je trouve que là-dessus, c'est encore un mauvais procès qui nous est fait par conséquent.
Le message politique est clair, Jean-Luc Mélenchon est toujours le patron, mais pas le roi. Il n'y aura pas d'hégémonie chez les insoumis.
En politique encore, les deux propositions du jour. Aurore Berger, la porte-parole de La République En Marche, veut interdire les corridas aux mineurs. Et puis Gaspard Ganzer, ancien conseiller de François Hollande, candidat à la mairie de Paris, estime qu'il y a trop de touristes dans la capitale. Il veut interdire les bus touristiques à Paris et diviser par 4 le nombre de nuitées Airbnb autorisées par logement. Comme promis, on en vient aux discussions autour du Brexit et cette mini-tournée du Premier ministre britannique Boris Johnson. Demain à Paris auprès d'Emmanuel Macron, aujourd'hui à Berlin auprès d'Angela Merkel. Bonsoir Ludovic Piétenu.
Bonsoir Bruno, bonsoir à toutes et tous.
Ludovic, correspondant de France Inter à Berlin. Alors la chancelière Merkel a reconnu que le sujet du Brexit lui donnait des maux de tête. Elle est donc avec Boris Johnson aujourd'hui. Que retient-on de cette rencontre pour l'instant ?
La chancelière lui a réservé les honneurs militaires tout d'abord, mais elle avait déjà prévenu Bruno quelques heures avant cette arrivée, l'arrivée du nouveau Premier ministre britannique à Berlin. « Je veux bien discuter des moyens d'un Brexit », disait-elle, « mais sans trop de frictions », ce sont ses mots. Car des frictions, cela en cause beaucoup trop à ses yeux. « Nous devons nous battre pour notre croissance économique », dit Angela Merkel, à la tête désormais du boulet de la zone euro en matière de croissance économique. L'Allemagne est peut-être sur le chemin d'une récession. Et c'est aussi le chemin que prend en ce moment la Grande-Bretagne. Alors c'est le visage plutôt tendu qui est arrivé tout à l'heure la chancelière pour cette conférence de presse. Et vous allez l'entendre, Boris Johnson essaie de détendre un tout petit peu l'atmosphère. Écoutez-le.
I just want to be absolutely clear that we in the UK.
Je veux juste être très clair. Nous en Grande-Bretagne, on veut un accord. Et je pense qu'on peut en avoir un. Wir schaffen das. Nous pouvons le faire en allemand. Je pense que c'est la phrase, hein, dit Boris Johnson. Allusion à cette célèbre phrase qu'Angela Merkel avait prononcée pour l'accueil des réfugiés. C'est franchement, Bruno, une conférence de presse assez tendue à laquelle je viens d'assister entre Boris Johnson et la chancelière allemande Angela Merkel. Ce sont vraiment les lèvres pincées, hein, qu'elle lui a répondu ensuite, qu'elle voulait à tout prix, elle, conserver une chose dans cet accord, ce qu'on appelle le backstop. Stop, c'est une clause qui permet d'éviter à l'avenir une frontière dure entre les deux Irlandes. Et ça, Merkel, vous le savez, a connu l'Allemagne divisée. Et donc, pour elle, c'est une question extrêmement importante.
Merci, Ludovic. Merkel ne cédera pas là-dessus. Macron non plus, semble-t-il. Quelques messages émanent de l'Élysée ce soir à propos de ce Brexit. Le scénario aujourd'hui qui devient central est celui du no deal, dit-on à l'Élysée. N'ayez aucun doute que les lignes françaises et allemandes et ailleurs sont les mêmes. Il est question de ce fameux backstop. La position de l'Union européenne ne changera pas, quelle que soit la position américaine. Voilà pour ces précisions de l'Élysée. Et demain, donc, la rencontre entre Boris Johnson et Emmanuel Macron. Cette dernière minute en Syrie, une victoire majeure pour le régime de Bachar el-Assad. Régime qui prend le contrôle de la ville stratégique de Khan Cheikhoun dans la zone d'Idlib. L'entretien du réseau SNCF est-il défaillant? À lire les extraits d'un rapport publié ce matin dans Le Parisien, la réponse semble être oui. Des opérations de contrôle ont été menées pendant près d'un mois, en avril-mai dernier, sur une partie du réseau Atlantique. Il est question dans le rapport de fils électriques rongés par des animaux, de retard dans la prise en charge des anomalies, retard dans 20% des cas. Le rapport est inquiétant, titrent nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. Un audit en cours, vous le savez, un audit est en cours sur tout ce réseau SNCF. Il n'y a pas de quoi paniquer. C'est la députée En Marche du Jura, Danielle Brulbois, qui dit cela. Elle est membre de l'établissement public de sécurité ferroviaire.
Notre réseau ferroviaire est en très mauvais état, c'est pas une découverte. Hein. Il y a à peu près 5000 km de lignes qui sont ralenties, où les TGV ne vont pas à la vitesse où ils devraient aller, parce que on n'est pas sûr de pouvoir aller à cette vitesse. Et pour éviter tout problème, pour pas dérailler, hein, pour pas déchanter, hein, on roule moins vite. Mais il y a tellement à faire que tout peut pas être fait du jour au lendemain, il y a une véritable prise de conscience. Malgré tout, on a quand même un réseau fiable, on a des personnels de maintenance qui sont bien formés, qui connaissent leur travail. Et moi, je prends le train en toute confiance. Hein. Je vois bien que quand il y a le moindre souci, le train est ralenti ou ne démarre pas. Et je crois qu'il ne faut pas inutilement alarmer.
Propos recueillis par Maxime Deps. De quoi est mort précisément Simon Gauthier, le Français victime d'une chute fatale lors d'une randonnée dans la région de Policastro, dans le sud de l'Italie. Premiers éléments de l'autopsie, première réponse, il semble qu'il ait succombé à une hémorragie massive, hémorragie de l'artère fémorale. L'actualité plus légère, actualité du cinéma. Parmi les plus grands succès au box-office mondial, au cinéma, ces dernières années, il y a les films de super-héros, Spider-Man en particulier, qui est bien installé dans le Panthéon.
You're a very difficult person to contact, Spider-Man.
Spider-Man Far From Home, plus grand succès commercial des studios Sony, sorti il y a quelques semaines. La particularité de Spider-Man, on parle ici de gros sous, c'est qu'il est tiraillé entre Sony, qui possède les droits sur le personnage, et les studios Disney, qui possèdent les droits sur l'univers Marvel. Ces dernières années, les deux avaient trouvé un accord pour que Spider-Man puisse apparaître dans les films Disney-Marvel, par exemple les Avengers, autre immense succès au box-office. Il semblait même en passe de devenir le grand héros de la série, succédant à Tony Stark, alias Iron Man, qui meurt dans le dernier épisode en date. Eh bien, l'accord entre Disney et Sony n'est pas renouvelé. Conséquence, pour l'instant, Corinne Pellicier, Spider-Man disparaît de la série Avengers et les fans enverraient bien quelques araignées venimeuses chez Sony.
Plus de 300 000 messages déjà sur Twitter sous le hashtag Save Spider-Man. Les fans de Marvel sur Internet sont furieux. Rappeler l'homme araignée chez Sony aujourd'hui représente pour eux presque un doigt d'honneur, car cela voudrait dire que dans le dernier épisode des Avengers, Tony Stark serait mort pour rien. Depuis l'accord historique et confidentiel conclu en 2015 par Marvel et Sony, le personnage de Spider-Man a non seulement fait son retour dans l'univers cinématographique Marvel, mais il en constitue fut surtout l'un des piliers devenu désormais le seul et unique héritier d'Iron Man. Son contrat, plus d'histoire et fin de partie surtout pour le comédien Tom Holland aux côtés des Avengers qui devait encore tourner 3 épisodes. Un sérieux revers pour la suite du programme, même s'il y a bien sûr d'autres franchises de super-héros à exploiter. Le comédien, lui, devrait toutefois continuer à porter le costume de l'homme-araignée dans de nouvelles aventures exclusives pour Sony, car on ne tue pas la poule aux œufs d'or. Spider-Man Far From Home est devenu cette année, avec plus d'un milliard de dollars de recettes, le plus grand succès financier de la firme devant James Bond pour et Skyfall.
Pour les amateurs de football, c'est le son du jour. Écoutez l'accueil que les supporters de Florence en Italie ont réservé à Franck Ribéry. Les clameurs, Ribéry qui s'engage dans le championnat italien. Il est arrivé à l'aéroport de Florence ce matin en jet privé. Polo écharpe aux couleurs violettes du club de la Fiorentina pour lequel il va jouer désormais. Message pour ceux qui se sont moqués au fil des années de son français parfois approximatif. Eh bien en italien, Ribéry ne s'en sort pas si mal pour dire qu'il est content, qu'il est avec la famille, qu'il veut faire de belles choses à Florence et qu'il aime l'italien.
Je suis content, je suis avec la famille. Dai, facciamo qualche cosa tutti insieme. Mi piace anche la lingua italiana.
Beh, la sai già, perfetto.
Sì, non sta perfetto, ma va bene.
Voilà, tu connais déjà l'italien, lui dit l'intervieweur dans cette vidéo tournée à l'aéroport. Je peux m'améliorer, mais ça va, dit Ribéry. On verra s'il est aligné avec l'équipe de Florence dès samedi pour la première journée de championnat en Italie. On finit avec la météo. Bonsoir Elodie Calac.
Bonsoir à tous.
Le temps sera estival demain.
Un soleil bien installé, en effet, avec quelques brouillards tout de même le matin vers la Bretagne, la Normandie, les vallées du Massif central, les Landes, mais on n'en parlera plus l'après-midi. Des Alpes à la Provence et à la Côte d'Azur, un ciel chaotique l'après-midi avec des averses, des orages parfois costauds, d'abord en montagne et qui pourrait déborder vers le littoral ensuite. Quelques orages possibles sur la montagne Corse et toujours du mistral.
Et des températures en hausse.
On passera au-dessus des moyennes de saison. L'après-midi, 24 degrés à Cherbourg, 25 à Lille, 27 à Paris, Strasbourg et Lyon, 29 degrés à Nantes, à Nevers, à Nice, 34 degrés à Nîmes. Le matin, en revanche, ce sera encore frais, souvent 6 à 13 degrés. Et puis pour la suite, du soleil et des températures en hausse.
Merci Elodie Calac.